RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et modernisée. La rubrique suivante, magazine culturel, qui sera continué avec Apprendre l'Indonésien. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Polyglotte Indonésie fait partie de la diplomatie indonésienne. L'Indonésie est un partenaire important pour la Russie. Rima apprécie le plan de coopération entre Singapour et Surabaya. L'ambassadeur d'Indonésie en Chine fait la promotion des produits indonésiens au groupe Alibaba. Des élèves de l'école primaire de l'Indonésie ont remporté un concours international de mathématiques. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Polyglotte Indonésie attend à nouveau la réunion nationale de Polyglotte Indonésie qui a eu lieu au bâtiment philatélique Jakarta le dimanche 8 juillet. Polyglotte Indonésie est une communauté qui accueille des personnes qui ont la capacité de parler plusieurs langues étrangères et il n'est pas seulement l'anglais en Indonésie. Le directeur de la diplomatie publique du ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, M. Aziz Nurwahyudi, a déclaré dans son discours lors de la réunion que Polyglotte Indonésie faisait partie de la diplomatie indonésienne. Selon lui, cette communauté a un rôle important en tant qu'agent d'amitié ou de créer des contacts entre l'Indonésie et les gens du monde entier.
Polyglotte ini adalah agen persahabatan. Polyglotte ini menjadi bagian dari.
Polyglotte est un agent d'amitié. Polyglotte fait partie de la diplomatie indonésienne. Polyglotte sera capable de créer contact de personne à personne plus beau. Je vois des amis ont un potentiel énorme. Les amis qui sont polyglottes parlent plusieurs langues. Ces amis sont des diplomates. Quand les amis communiquent avec des amis d'autres pays avec leur langue, ces amis ont créé une agence d'amitié et les amis ont créé des contacts de personne à personne. Monsieur Aziz Nurwahyudi souhaite que les membres de Polyglotte Indonésie puissent transmettre un message de paix à la communauté mondiale et expliquer la nation indonésienne avec toute son hospitalité, sa diversité culturelle et sa beauté naturelle à travers ses compétences linguistiques. On souhaite également que les membres de cette communauté puissent contribuer à certains événements internationaux qui sont organisés en Indonésie, tels que les Jeux Asiatiques 2018 et la réunion annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La République de la Fédération de Russie et la République d'Indonésie sont deux pays amis avec une longue histoire de relations dans divers domaines. y compris la politique. Les relations entre les deux pays existent depuis plus de 10 décennies. À cette époque, la République de la Fédération de Russie s'appelait l'Union soviétique. Dans le domaine politique, la Fédération de Russie montre ses relations étroites avec l'Indonésie par de son soutien total à l'Indonésie lors de l'élection des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019-2020. La Fédération de Russie espère que l'Indonésie sera en mesure de mettre correctement en œuvre son programme de politique étrangère par l'intermédiaire du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce qu'a déclaré Lyudmila Vorobieva, ambassadrice de la Fédération de Russie en Indonésie, lors de la Journée nationale russe à Jakarta vendredi le 6 juillet.
Russia and Indonesia have a long history of relationship, traditionally based on principles of friendship, mutual understanding.
La Russie et l'Indonésie a une longue histoire de relations à travers cette strictement fondée sur l'amitié, la compréhension mutuelle et le dialogue. Conforme de la parfaite relation politique était le soutien de la Russie à l'Indonésie pour être membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019-2020. Nous félicitons l'Indonésie pour cette victoire et souhaitons plein succès dans la mise en œuvre de son agenda politique dans le cadre de la manifestation internationale. L'Indonésie est l'un des principaux partenaires de la région Asie-Pacifique et des pays de l'ASEAN. À la même occasion, ambassadeur Vorobieva a également exprimé ses félicitations à l'Indonésie qui accueillera les Jeux Asiatiques 2018 en août. Selon lui, l'avènement des Jeux Asiatiques 2018 a une signification pour la Russie parce que les principales activités seront jouées au stade de Gelora Bung Karno, Jakarta, construit par l'Union soviétique à la demande spéciale du premier président Sukarno en 1962. Tout en cela, n'oublions pas l'ambassadeur Vorobieva à remercier pour la présence de l'une des filles du président Sukarno, Rahmawati Sukarno Putri. Le maire de la ville de Surabaya, Madame Tri Risma Hari Ini, a apprécié le plan de coopération offert par le gouvernement de Singapour à la ville de Surabaya dans le domaine du tourisme, de l'investissement et de l'échange des employés et des étudiants. Cela a été déclaré par Madame Tri Risma Hari Ini à Marina Bay Sands Expo and Convention Center Singapore lundi, après avoir reçu Lee Kuan Yew World City Prize dans la catégorie Mention Spéciale. Risma a déclaré qu'elle préparerait quelque chose nécessaire pour accueillir la coopération mutuellement bénéfique pour Surabaya et Singapour. Risma est également la conférencière au Sommet mondial des villes 2018 à Singapour du 7 au 9 juillet 2018. Pour finaliser le plan de coopération en marge de la réception du prix, Madame Risma a tenu une réunion avec le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Mohamed Maliki. Le ministre Maliki offre une certaine coopération avec la ville de Surabaya, y compris le tourisme, l'investissement, l'échange d'employés et l'échange d'étudiants. Pour la coopération en matière d'investissement immobilier, il a promis d'amener des hommes d'affaires singapouriens à investir directement dans la ville de Surabaya. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'ambassadeur d'Indonésie en Chine et en Mongolie, M. Jauhari Oratmangun, s'est rendu au siège du groupe Alibaba à Hangzhou en Chine pour promouvoir les produits indonésiens dimanche. Alibaba Group est une société multinationale chinoise engagée dans le commerce électronique. M. Jauhari Oratmangun a déclaré à l'agence de presse Antara à Pékin lundi que la vente de produits indonésiens pourrait être augmentée via le centre commercial Alibaba. À travers cette visite, il a voulu profiter des opportunités de coopération entre les deux pays, notamment en termes de développement du commerce électronique, des finances et de la technologie, ainsi que la plateforme numérique. Il a expliqué dans la réunion tenue dimanche a également discuté du plan de la visite des gestionnaires d'Alibaba à l'Indonésie pour explorer les opportunités de coopération à la fois avec le gouvernement et d'autres partenaires potentiels. 12 élèves de l'école primaire de l'Indonésie ont remporté 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 6 médailles de bronze du concours international de mathématiques bulgare 2018 qui s'est déroulé du 1er au 5 juillet. Comme Antara l'a rapporté, le directeur de la formation des écoles primaires, Kamim à Jakarta lundi, a déclaré que cette réalisation prouve que l'Indonésie est également en mesure de rivaliser dans l'arène internationale. Kamim a expliqué que la délégation du concours international de mathématiques de la Bulgarie de 2018 est composée d'étudiants du champion national de l'Olympique scientifique en 2017. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quel moyen écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email voiquiz2018@voinews.id. Je répète, voiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Cher Ritter, voici donc le commentaire ayant pour le titre « La Cour constitutionnelle commence à résoudre le conflit électoral 2018 ». L'élection du chef régional au Pilkada simultanément dans toute l'Indonésie a été mise en œuvre avec succès le 27 juin. Sur un total de 171 circonscriptions électorales, la commission électorale a reçu une récapitulation de vote compte de 111 régionales. Jusqu'à samedi, le 7 juillet, il y avait 9 demandes de litige sur les résultats des élections régionales en 2018 qui ont été enregistrées à la Cour constitutionnelle. Les 9 demandes proviennent de 5 villes, à savoir Cirebon, Madiun, Gorontalo, Parepare et Tegal, et 3 résidences, à savoir Bangkalan avec 2 demandes, Biak Numfor et Bola en Mongondo du Nord. des 9 demandes seulement 2 sont admissibles à l'article 158 de la loi numéro 10 en 2016 concernant l'élection du chef régional. L'article stipulait que le litige relatif au contentieux électoral ne peut être soumis que si la différence de vote du demandeur avec le vainqueur de l'élection est de 2% maximum. Les deux zones admissibles au litige sont les villes de Tirebon. Néanmoins, le juge en chef de la Cour constitutionnelle, Anwar Ousmane, a confirmé toute la demande de contestation à la Cour constitutionnelle passera encore les étapes de l'enregistrement, l'examen préliminaire, l'amélioration de la demande et l'examen des partis. En effet, depuis les élections de 2017, la Cour constitutionnelle a été plus indulgente envers les pétitionnaires du conflit. Un certain nombre de cas restent traités malgré la différence de plus de 2%. À cette époque, la Cour constitutionnelle a prononcé le verdict pour Tolikara, Intan Jaya, Yapen et Puncak Jaya en Papouasie, bien que la différence entre les candidats dans la région soit très éloignée. C'est tout à fait juste pour la Cour constitutionnelle de mettre en œuvre la politique. Fondamentalement, ce qui est appliqué par la Cour constitutionnelle pour examiner en différent a rempli la base juridique, pas seulement la différence des votes. Il pourrait y avoir des circonstances extraordinaires au moment de la récapitulation du vote ou d'autres facteurs importants. Le principe de justice et de sécurité juridique devrait être à la base de toutes les politiques de la Cour constitutionnelle en matière de résolution des conflits électoraux. Ainsi, les conflits dans les régions peuvent être évités parce que la Cour constitutionnelle a été en mesure de résoudre tous les différends. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 10 juillet 1962, le premier satellite de télécommunication du monde, Telstar, en orbite dans l'espace. Telstar est un satellite de télécommunication expérimental développé par la société AT&T et destiné à tester l'utilisation d'un satellite pour les communications à longue distance d'appels téléphoniques, émissions télévisées. Le satellite est lancé par une fusée Thor Delta le 10 juillet 1962. Le satellite peut transmettre avec succès la première image de télévision, des appels téléphoniques et des images de télécoffee. Le 10 juillet 1985, le navire de Greenpeace Rainbow Warrior 1 a été bombardé et coulé dans le port Auckland, la Nouvelle-Zélande, par l'agent secret français, la DGSE. Rainbow Warrior 1 est le nom pour une série de navires de Greenpeace. Il est l'un des trois navires utilisés par Greenpeace pour lutter contre la destruction environnementale. Le 10 juillet 1991, Boris Eltsine a commencé son travail en tant que premier président de la Russie. Le 10 juin 1991, Eltsine était élu président de la Russie, qui était constituée en fédération avec 57% des voix. Il devient le premier président à être élu directement dans l'histoire de la Russie. L'ère Eltsine est une période dramatique dans l'histoire de la Russie parce que à cette époque-là, il y avait un changement politique révolutionnaire, une démocratie et aussi un grand problème politique et social, entre autres la corruption. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée Pancasila comme la voie du milieu pour surmonter la crise de la civilisation. L'Indonésie accueillera le Forum mondial de la paix du 14 au 16 août 2018. Le thème de la 7e réunion est Une voie du milieu pour la nouvelle civilisation mondiale. La civilisation mondiale cumulative, le mode incertain, le mode du Shao. C'est l'esprit qui doit être surmonté par un paradigme, à savoir le paradigme de la voie du milieu, à la fois du point de vue de la religion et de l'idéologie nationale. Lors d'une réunion qui ouvrira par le président Joko Widodo, l'Indonésie proposera Pancasila comme la voie du milieu pour surmonter la crise de la civilisation. L'envoyé spécial du président pour le dialogue et la coopération interreligieuse et la civilisation, M. Din Shamsuddin, a récemment expliqué que l'Indonésie participait au processus de paix et on estime la civilisation mondiale est coincée dans l'extrémité, notamment le libéralisme absolu qui se manifeste dans divers aspects de la vie, la politique, la culture et l'économie. Selon M. Din Shamsuddin, l'Indonésie possède Pancasila, la réhabilitation Pancasila comme une voie de milieu, y compris la Constitution 1945. Il souhaite que Pancasila puisse devenir la considération de la communauté internationale dans la lutte contre la crise de la civilisation adulte. Comme cité par l'Agence de Nouvelles Antara à Jakarta, 3 juillet, Din Shamsuddin a expliqué que comme l'organisateur, le peuple indonésien voudrait s'impliquer dans la lutte contre le problème de la civilisation dans le monde entier. Pancasila comme la voie du milieu pour faire face à la crise de la civilisation sera discuté dans la session de la discussion de la voie du milieu du point de vue idéologique des pays. Le président du comité d'organisation du 7e Forum mondial de la paix, M. Muhammad Najib, espère que l'initiative de l'Indonésie fera le prochain monde plus sûr, plus pacifique et plus prospère avec la diminution de la violation causée par la montée de l'extrémisme. Chers amis, c'était la rubrique « Mon Indonésie » de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quels moyens écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email voiquiz2018 voinews.id. Je répète, VOI Quiz 2018 à voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Yeah!
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia. Chers amis, nous continuons notre émission avec Le Magazine Culturel en produisant le parc touristique Puncak Villa. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix de l'Indonésie. Il y a quelque temps, le président Joko Widodo a inauguré le Sangkal Éolienne PLTB au village Watangpulu, à Sidrap, Sulawesi Sud. Lors de l'inauguration, le président Joko Widodo s'est émerveillé de la beauté naturelle des collines Watangpulu, avec 30 moulins à vent de Sangkal Éolienne. Le président a déclaré que la Seine est comme aux Pays-Bas. L'existence de cette Sangkal Éolienne ajoute au potentiel de beauté de la région Sidenreng Rapang, soit Sidrap, en tant que destination touristique à Sulawesi Sud. Cette région a effectivement un potentiel touristique diversifié. Le parc touristique Puncak Villa est l'un d'entre eux que nous allons présenter cette fois-ci. Le parc touristique Puncak Villa est situé dans la montagne Villa, sous-district Villa, en région Sidrap. Son emplacement est à 215 km au nord de la capitale de la province Sulawesi Sud. De la capitale de la région Sidrap, la distance est d'environ 36 km de l'est. Cette attraction touristique combine le tourisme moderne avec un mélange de beauté naturelle. C'est l'attraction principale pour les touristes qui veulent visiter. Le parc touristique qui a été couronné comme la meilleure destination de tourisme de Sulawesi Sud en 2016 a une variété de tours touristiques intéressants. Avant d'arriver au parc touristique Puncak Villa, vous passerez une rangée de rizières vertes et de plantations. Pour entrer dans l'emplacement touristique, vous devrez payer 15 000 rupiah du lundi au vendredi. Pour samedi et dimanche, le billet est 20 000 rupiah. Alors que pendant les vacances nationales, les touristes doivent payer 25 000 rupiah. Allez au parc touristique Puncak Villa, vous pouvez profiter divers manèges du jeu. Il y a une rampe d'eau pour l'amateur de mouille, Flying Fox pour les amateurs de défis d'adrénaline, Peace Derp pour les moteurs de ATV et une vaste étendue de pelouses qui peuvent être utilisées pour le camp. Dans l'emplacement du parc touristique Puncak Villa, il y a aussi des dizaines de gazebos pour se détendre. Il y a aussi un bateau ou canot qui peut être utilisé pour explorer le lac, une piscine avec de l'eau de la montagne et un étang de pêche pour ceux d'entre vous qui aiment pêcher. Tout tour de jeu au parc touristique Puncak Villa a son propre tarif pour pouvoir l'utiliser. Par exemple, pour Flying Fox, vous devez payer un ticket 15 000 rupiah par personne et pour le moteur ATV, le ticket est 20 000 rupiah par personne. Voyager au parc touristique Puncak Bila cette fois-ci a plus de plaisir, surtout lorsque le directeur de ce parc touristique fait un endroit photo intéressant. Un vélo géant avec une longueur de 14,71 mètres et 7,15 mètres de haut. Cet endroit de photo de vélo géant est considéré comme le plus grand vélo du monde et est devenu la nouvelle icône du parc touristique Puncak Bila. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir, chers amis. Nous continuons notre émission avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler l'indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Berapa umur kalian waktu menikah? Berapa umur kalian waktu menikah? Ou en français, quel âge avez-vous quand vous vous mariez? Maintenant, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre Berapa umur kalian waktu menikah? Ou en français, quel âge avez-vous quand vous vous mariez? Dans le salon de la maison de Joko, Tony et Dinda sont en train de regarder la photo de mariage de Joko et Dinda.
Berapa umur kalian waktu menikah?
Aku 21 dan Mas Joko 25. Oh iya. Kapan kamu akan menikah?
Saya tidak punya pacar, jadi belum tahu kapan saya akan menikah.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et vocabulaire reliant au thème d'aujourd'hui, à savoir berapa umur kalian waktu menikah? Ou en français, quel âge avez-vous quand vous vous mariez? Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Berapa umur kalian waktu menikah? Berapa umur kalian waktu menikah? En français, quel âge avez-vous quand vous vous mariez? Aku 21 dan Mas Joko 25. Aku 21 dan Mas Joko 25. En français, j'avais 21 ans et Mas Joko avait 25 ans. Pacar. Pacar. En français, petit ami. Saya tidak punya pacar. Saya tidak punya pacar. En français, je n'ai pas de petit ami. Jadi belum tahu kapan saya akan menikah. Jadi belum tahu kapan saya akan menikah. Donc je ne sais pas encore quand je me marierai. Dans le dialogue, vous entendez berapa umur kalian waktu menikah? Berapa umur kalian waktu menikah? En français, quel âge avez-vous quand vous vous mariez? Le mot waktu dans ce contexte peut être remplacé avec le mot ketika. Comme par exemple, berapa umur kalian ketika menikah? Je répète, berapa umur kalian ketika menikah? En français, quel âge avez-vous quand vous vous mariez? Le mot waktu et ketika dans cette phrase sont utilisés pour marquer le même temps. Comme par exemple, saya menikah ketika berumur 21 tahun. Je répète, saya menikah ketika berumur 21 tahun. En français, je me suis marié quand j'avais 26 ans. Dia pergi ketika hujan. Dia pergi ketika hujan. En français, il part quand il pleut. Joko menelpon waktu saya sedang tidur. Joko menelpon waktu saya sedang tidur. En français, Joko a appelé pendant que je dormais. Waktu kecil, apa cita-cita kamu? Waktu kecil, apa cita-cita kamu? En français, en tant qu'enfant, quels sont vos objectifs? Le mot waktu est d'habitude utilisé dans la conversation, tandis que le mot ketika est habituellement utilisé dans des situations formelles ou par écrit. Les informations supplémentaires. En discutant, les Indonésiens posent parfois des questions personnelles concernant, par exemple, l'âge, marié ou non, et demandent parfois la religion. Des questions à ce propos sont considérées comme normales par certains Indonésiens. Avant de terminer Apprendre l'Indonésien aujourd'hui, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois. Langsung masuk percakapan yang sudah direkam. Chers amis, après avoir écouté la conversation yang peut-être berapa umur kalian waktu menikah, nous vous donnerons une pratique qui est bien sûr liée au mot existe. L'exercice cette fois est d'écrire votre famille en répondre aux questions suivantes. Berapa jumlah anggota keluarga Anda? Berapa jumlah anggota keluarga Anda? En français, combien sont membres de votre famille? Anda anak keberapa? Anda anak keberapa? En français, quel ordre vivez-vous dans votre famille? Berapa jumlah saudara Anda? Berapa jumlah saudara Anda? En français, combien de frères ou sœurs avez-vous? Berapa perbedaan umur Anda dan saudara Anda? Berapa perbedaan umur Anda dan saudara Anda? En français, quelle est la différence entre ton âge et l'âge de ton frère? Comme par exemple, anggota keluarga saya berjumlah 4 orang. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya mempunyai 1 adik laki-laki. Dia 2 tahun lebih muda daripada saya. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. En pratique, envoyez votre enregistrement vocal en indonésien à notre adresse email à voi@voinews.id. Je répète, notre adresse email à voi@voinews.id. Il y aura un cadeau sous la forme d'un colis étrayant pour heureux gagnant. Le gagnant sera annoncé en novembre 2018. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien pour aujourd'hui. Merci à tous et à demain.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir chers amis de la voix de Nizi dans le monde entier. Voici le magazine musical. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes. Et cette fois, nous avons déjà sélectionné des chansons malaises chantées par Betaria Sonata, qui était célèbre aux années 1990. Voici sa première chanson intitulée Dodoy Si Dodoy. Bonne écoute. Chère Rita, vous venez d'écouter la chanson malaise provenant de Jambi, chantée par Betaria Sonata, intitulée Dodoy Si Dodoy. Cette chanson est habituellement chantée par une mère pour son enfant comme une berceuse. En outre, la chanson est comme un moyen de la mère de raconter son anxiété. La mère espère, à travers de cette chanson, l'enfant peut écouter et comprendre son anxiété. Betaria Sonata n'était pas le premier à populariser cette chanson. Il y a déjà beaucoup d'autres chanteurs indonésiens qui ont chanté la chanson Dodoy Si Dodoy. La chanson Dodoy Si Dodoy esok album dendang terpopuler Melayu Deli Bong Seritak Ektong dong kemetong lasang song suivang tada betak ya sonata ang ditule Pourquoi je ne sais pas. Bon écoute. Komla sangsong presedang tak sesangsong etang klus dang lalbum dendang terpopuler Melayu Deli kompose par Hussein Aidit. Bong serditak awang de terminoto program wasila sangsong suivang tada betak ya sonata ang titule Tanjung Katung. Bonekut ya demeng. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi, ça termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.